Bienvenue à la chronique du Tétalab. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas fait là, après ces grandes et longues vacances. Donc la Dream Team au complet, donc il y a Alex, Coralie et moi. Et ben, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes et reprendre le même principe qu'avant. Donc on explique le générique. Ah, le pad.
Oui, il y a le pad aussi. Ou le pad, donc c'est canalsud.tetalab.org. Vous pouvez retrouver le générique, les musiques et les liens vers les informations qu'on va passer pendant l'émission. Voilà. Et aussi nous poser des questions si vous en avez. Et okay. On parle du générique rapidement. Ouais. Donc c'est le générique du film documentaire Terms and Conditions May Apply. Donc c'est un documentaire sur tous les termes et conditions que vous signez quand vous accédez à des sites web ou à Facebook, à Google et tout ça. Donc c'est un documentaire qui va passer le 22 novembre à l'Utopia, un peu en ouverture du Capitole du Libre qui aura lieu le week-end en suivant, avec une intervention de Jérémy Zimmerman à la fin du film pour lui poser des questions sur qu'est-ce qui se passe quand on signe des conditions sur des sites web.
Et il faut noter que la traduction du film a été collaborative en fait.
Voilà, ouais, les dernières semaines on a essayé de lancer une traduction avec plusieurs personnes sur des mailing lists afin de d'avoir au moins les sous-titres en français. Et c'est toujours en cours, je crois qu'on a traduit, il y avait 1500 lignes de texte à traduire et c'était un peu long, et après il y a encore plein de règles à appliquer pour que ça soit lisible sur un vrai film et pas juste des paquets de lignes de texte mal traduites.
D'accord. Bon, on fait comme d'habitude une petite partie actu, revue de presse et une partie dossier. Donc vous voulez commencer par quoi? Des actus rigolotes ou des actus tristes?
On peut commencer par une actu... Bah, je sais pas, à double tranchant, on va dire.
Allez.
Donc, il y a Tim Cannon, un biohacker, qui s'est fait implanter donc un instrument de body monitoring dans le bras.
D'accord.
Donc, il s'est fait une ouverture et il a mis donc une carte qui s'appelle Circadia 1.0. qui fait la taille d'un paquet de cartes, donc c'est quand même assez gros.
Et il se l'est mis sous le bras ?
Dans la peau, en fait.
Ouais. D'accord,
sous la peau.
Il y a eu une intervention chirurgicale ou il a fait ça au couteau ?
Ça, c'est une bonne question, c'est pas précisé, mais
c'est assez impressionnant,
ça a l'air assez do-it-yourself dans le genre.
D'accord, un paquet de cartes sous le bras.
On dirait qu'il a un iPhone dans la peau, c'est assez gros comme truc. Hein.
Ça va pas être agréable, quand même.
Donc ce qu'il revendique, c'est que donc, notre environnement devrait s'adapter de manière intuitive à notre état physique. Donc ça veut dire que, par exemple, si tu es un peu stressé, tu as un instrument de body monitoring qui le sait, ouais, et qui va te préparer une petite lumière tamisée quand tu vas rentrer à la maison et te faire couler un bain chaud. Voilà. Donc pour les personnes intéressées, ça sera disponible pour... $500 si vous voulez.
D'accord, mais ça fait la taille d'une carte, mais ça prend quoi? Les pulsations cardiaques? Ça fait une analyse du sang en temps réel?
Je pense que ça doit prendre les pulsations cardiaques, c'est situé ici en fait, sur le
D'accord.
bras.
C'était un truc assez basique, quoi. Il voulait sa première version, il veut intégrer de plus en plus de choses à l'intérieur.
Et il veut pas le miniaturiser un petit peu?
Si, il a parlé de le miniaturiser, parce que là c'est vrai que ça fait assez peur.
Oui. Ouais.
En l'occurrence.
Sur les photos, on dirait que c'est un peu infecté. C'est avec la grosse.
Il y a les photos sur le pad, ouais, pour qu'on puisse voir ça.
Il y a le lien sur le pad, donc si vous allez sur canalsud.tetap.org, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble cet énorme.
Donc, âme sensible, s'abstenir peut-être.
Ouais,
ouais, c'est pas très joli quand même.
Je sais pas si on peut faire ça sur des enfants, mais.
Ok, ouais, c'est
donc
une...
voilà, l'actu, okay. DIY Cyborg.
Ok, moi je vais pas, on va rester léger aujourd'hui pour reprendre le rythme. Donc info vue sur Corben, on s'est souvent posé la question sur les cartes bancaires NFC. Alors NFC, RFID, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une communication de sa carte bancaire sans fil, sans terminal de paiement. Pour payer, donc on met sa carte de paiement au-dessus du terminal et hop, ça fait la transaction sans qu'on ait rien à faire. Donc ça pose pas mal de problèmes de confidentialité, puisqu'on peut voir nos derniers achats et on peut, le commerçant peut faire une transaction sans autorisation quand c'est en dessous de 20 euros. Donc bon, il faut bien imaginer qu'il y a un gars qui va se trimballer dans la rue avec du matériel NFC et qui va faire ses transactions quand vous avez la carte bancaire dans la poche. Alors on peut demander au banquier de désactiver cette fonction, mais en fait il désactive les services sur les serveurs, mais il désactive pas la carte bancaire. Donc en fait l'astuce elle est très simple, il suffit de prendre sa carte bancaire. Bon, je sais pas si j'en ai une NFC, mais bon, de toute façon on verra rien. La mettre à la lumière et par transparence on voit le circuit de la puce NFC. Alors une puce NFC, il y a un espèce de bobinage qui fait toute la carte, et en fait quand il va y avoir un champ électromagnétique, ce bobinage va induire du courant qui va activer la puce. Donc ce qui est très simple à faire, c'est de, soit avec une aiguille, soit une mini perceuse ou quoi que ce soit, c'est d'aller faire un trou dans ce bobinage. Donc après, la carte, elle continuera à fonctionner avec la puce, il n'y a pas de problème. Donc ceux qui sont paranoïaques, mais ils ont raison, autant faire un trou dans sa carte. Donc moi, il faut que je le fasse sur la mienne, d'ailleurs.
Ou sinon, on peut demander à sa banque juste d'avoir une autre carte normale.
Ouais, mais ils ne le font plus.
Ce que pas beaucoup de banques acceptent. Ouais.
Bah, ils ne le font plus, ils ont une ligne de production avec. Et puis voilà, de toute façon, ils parient sur le fait que tu fermeras ta gueule.
Pas forcément, ouais. J'ai réussi à... Pas...
Ouais, mais t'es sûr qu'elle est réellement désactivée ?
Elle est pas activée.
Et t'es sûr qu'il n'y a pas de NFC dedans ?
Ouais.
T'as regardé à la lumière ? Sors ta carte.
Normalement, il y a un petit logo pour dire que votre carte elle est NFC. C'est une espèce de petit symbole Wi-Fi à côté de la puce de votre carte bancaire. Et à ma banque, c'est un modèle en expérimentation. Donc pour l'instant, ils acceptent de vous donner des anciennes cartes.
Ça doit pas être NFC la mienne.
J'ai pas de carte bleue, j'ai que du cash.
Ouais, bah c'est pas le plus mal.
Je crois pas qu'on puisse voir à travers. Hein. Pas
ouais,
un truc,
non, c'est bien opaque.
Ouais, ouais, c'est bien opaque quand même. Enfin bon, voilà.
Mais ah, mais tu vois, celle-là, là, regarde le petit symbole.
Ouais, voilà.
Moi, j'ai plein de cartes bancaires.
Tu veux pas en prêter une ?
Périmée, mais. Ok, c'est bien. Donc, autre news rigolote. Ah ouais, le marronnier du bité et du couteau. Chaque année, on ressort l'info, mais ça fait toujours rigoler. Il y a les bases de données d'Adobe qui ont été hackées. Et à chaque fois qu'il y a une grosse base de données qui est hackée, il y a des gens qui s'amusent à regarder les différents passwords. Donc, sans surprise, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 5 qui s'en sort en première place. Mm. Puis bon, là, comme c'est pour des produits Adobe, presque tous les passwords ont Adobe 1, 2, 3 ou 1, 2, 3 Adobe.
Alors, sachant que c'est
ou password. Password, c'est pas mal. Ça, c'est...
Ouais.
On le retrouve assez souvent, password.
La plupart des comptes, c'était pour s'inscrire sur le site afin de télécharger Acrobat Reader ou des choses comme ça. Donc en général, les gens ne mettaient pas des super mots de passe. Mais il y a quand même 153 millions de comptes dans le fichier. Et on a fait quelques recherches l'autre jour. Il y a à peu près 300 comptes de chez Airbus. Quelques trentaines de comptes pour chaque banque.
Ça veut dire que sûrement, ils utilisent le même password pour leur compte perso, quoi.
Ça peut être possible. Et ce qui était intéressant aussi dans ce fichier, c'est qu'il y a les astuces, quand vous ne souvenez pas de vos mots de passe, vous mettez un petit message pour dire qu'est-ce que c'est le mot de passe. Et donc, toutes ces astuces pour retrouver le mot de passe sont affichées aussi dans ce fichier. Donc, par exemple, si vous avez mis un mot de passe, on s'appelle Bernardo. Donc, pour vous souvenir de votre mot de passe, vous disiez le nom de mon chien ou le nom de ma mère. Du coup, il y a tous les gens qui ont mis le même mot de passe Bernardo qui est crypté. Et on voit toutes les astuces pour retrouver le nom
de
Bernardo.
Ça, de toute manière.
Les astuces, oui, sont en clair dans ce fichier-là. Mais du coup, on voit toutes les astuces pour faire Bernardo. Et au début, on ne sait pas que c'est Bernardo, mais en compilant les astuces ensemble, on peut trouver que c'est Bernardo. Enfin bon, c'est un peu bizarre, mais ça marche bien.
Je n'ai pas tout compris, mais ok. ensuite, toi, tu avais des news, Alex ? Je crois. D3 VS Processing, c'est quoi ça ?
Non, continue.
D'accord, ok, tu révises.
Je révise.
Google. Donc ça fait rêver tout le monde de travailler chez Google, moi le premier. C'est un des meilleurs employeurs au monde, on peut le dire, non, quand même. Quand on voit les reportages sur leurs locaux, ils ont des toboggans, des canapés partout, des distributeurs de bonbons. Ils ont 20% du temps de travail qui est alloué à des projets personnels. Donc c'est, ça paraît génial. Et bien en fait, apparemment, travailler chez Google, c'est pas top top, quoi. Et donc il y a un listing sur Numérama, sur un article de Numérama, qui liste en fait pourquoi c'est pas si cool de travailler chez Google. Bah déjà, en fait, il y a tellement de gens qui postulent avec des niveaux Bac plus 5, Bac plus 7, 10, 20, que ben, y a la concurrence. Et en fait, il y a des Bac plus 7 qui se retrouvent à la hotline chez Google. Donc bon, quand on a Bac plus 7, qu'on a un lourd bagage et qu'on fait de la hotline, forcément, ça fait râler. Ensuite, il y a tellement des hauts niveaux chez Google qu'en fait, tout le monde se tire la bourre. Tout le monde est censé être le meilleur. Et en fait, même si nous, on se pense meilleur que les autres ou qu'on a du talent, et eh ben en fait on est noyé dans la masse, quoi. Donc ils expliquent un peu tous les cas que bah, Google, c'est finalement, c'est pas top, quoi. Donc ça change un peu l'image de chez Google qu'on a. Donc n'allez pas chez Google, ça fera une place pour moi. J'ai vu un article sur Hackaday qui est sur le bus Cannes. Alors qu'est-ce que le bus Cannes? En fait, alors historiquement sur les voitures, depuis les années 60, on a de plus en plus d'électronique. Donc on a de plus en plus de câbles, et donc on arrive à une limite où on a à peu près 2 km de câbles dans une voiture. Alors ça pose des problèmes surtout de poids, parce que les câbles, ça pèse lourd au final. Et donc ils ont sorti Intel et je crois que c'est Bosch, un modèle où en fait on utilise ce qu'on appelle le multiplexage. Alors le multiplexage, en fait, au lieu d'avoir un appareil qui est relié par un câble, puis un autre appareil qui est relié par un autre câble, et ainsi de suite, on va avoir tous ces appareils reliés par un seul et même câble. Mais en fait, ils vont communiquer avec, par exemple, l'ordinateur de bord à tour de rôle. C'est ça qu'on appelle multiplexage. En fait, on a une ligne et on sépare le temps pour chacun des modules. Et donc c'est là où on a vu apparaître en fait le bus scan, qui est c'est tout le processus de multiplexage. Et on a sur chaque voiture une prise qui le plus souvent va servir pour les valises de chez Renault ou de Peugeot, tout ça. Et depuis 2008, toutes les voitures doivent avoir cette prise, et c'est standardisé. Donc très souvent on dit, ah là là, ça va coûter cher le passage à la valise, ou les petits garagistes, les pauvres, ils n'ont pas de quoi s'acheter une valise. Mais en fait, sur cet article, il montre qu'avec, mettons, 10 euros, on peut se fabriquer un adaptateur pour brancher sur cette prise et récolter les données de sa voiture directement sur son ordinateur. Donc maintenant, quand on va chez Renault ou Peugeot ou machin, qui nous facture 100 euros une lecture de valise, bah en fait, c'est un peu quand même, on se fait un peu avoir, quoi. Voilà, voilà.
J'avais des infos à vous proposer.
Vas-y, vas-y.
On a des mails, hein, des communiqués de presse qui tombent. Et là, récemment, il y a une société funéraire à Toulouse qui a ouvert une société de mémoire d'images des défunts, ouais, pour que les proches à l'avenir puissent aller voir sur des pages internet qui était ce personnage, contre son oubli et tout. Et je crois que c'est inspiré un petit peu du Japon, quoi. Je sais qu'au Japon, il y a pas assez de place pour enterrer.
En Chine aussi, ouais.
En Chine aussi. Et donc ça y est, la première société française qui se lance dans ce commerce, on va dire, ben c'est une société toulousaine.
D'accord.
Société funéraire toulousaine.
Mais ça pose un vrai problème, en fait, quand t'as ton compte Facebook. Que tu meurs, qu'est-ce qui devient ce compte Facebook? Est-ce que ta famille peut le récupérer?
Tu peux présenter sur Facebook un avis de décès pour justement fermer le. Non,
d'accord.
C'est ta famille qui doit le faire.
Mais tu n'as pas le droit de récupérer le compte. J'ai vu que, enfin, j'avais entendu que, ben forcément, il y a des choses quand même assez intimes qu'on poste sur Facebook, ou des messages,
Photos de poney.
Oui, ou même de ses parties, j'en sais rien. Mais et que Facebook, justement, est contre le fait de donner les clés à quelqu'un de sa famille, quoi. Bon, après, je pense que c'est surtout, ça leur pose un problème logistique. Mais voilà, parce que ça reste, même dans la mort, ça reste privé, quoi.
Et par rapport à la mort, je crois, sur Facebook, il y a quelqu'un qui avait calculé que d'ici 2020, il y aurait plus de morts sur Facebook que de personnes vivantes. Parce qu'à force d'accumuler des comptes, il y a des inscriptions, mais aussi des personnes qui décèdent, et du coup, les inscriptions qui sont passées avant 2010, nombre de morts va surpasser le nombre de vivants.
C'est le sujet aussi d'un épisode d'une série, Black Mirror, où en fait, avec toutes ces données, ils arrivent à recréer un personnage après sa mort. Voilà, et donc du coup.
C'est la saison 2 ou la saison 1 ?
C'est la saison 2, le premier épisode de la saison 2.
Il y a une nana, elle perd son mec et elle tombe enceinte juste avant sa mort et elle veut que le papa soit là. Du coup, grâce à toutes les données que la personne avait compilées sur, on va dire, un Facebook, ils arrivent à recréer le personnage dans ses sentiments, ses émotions, sa façon d'être et tout. Ouais, ses photos.
Et même physiquement, en fait.
Et même physiquement,
ouais. Ouais, bon, je sais pas si on avait parlé de cette série qui est anglaise, qui est quand même excellente.
Donc, par la BBC,
la saison 2.
Il y a deux saisons, trois épisodes. Donc, à chaque fois, c'est des courts-métrages de 45 minutes. Et c'est des histoires qui n'ont rien à voir les unes sur les autres. Mais c'est des petites anticipations un peu minimalistes, mais qui permettent de voir comment la technologie pourrait tourner n'importe comment. Très peu de temps.
Le premier épisode de la saison 1 est assez...
Avec le premier ministre qui se fait avoir par un terroriste en ligne pour le...
Il a soit la princesse d'Angleterre est tuée, soit il doit faire des choses avec un cochon. En gros, c'est ça, quoi.
En direct devant tout le monde, ouais.
Voilà.
En utilisant les médias en ligne pour monter sa popularité.
Et une autre information qui, je crois, je l'ai vue hier, ils ont créé un personnage virtuel internet pour choper des pédophiles à travers le monde. Ouais. C'est Human Rights qui a fait ça. Donc ils ont créé une petite fille, je crois une Cambodgienne, vraiment virtuellement. Et elle s'est connectée à ce personnage virtuel sur internet.
Du coup, ils peuvent afficher la vidéo sur webcam.
Grâce au motion tracking, il y a une personne derrière, mais c'est la tête de la petite fille. Mais je l'ai vue, moi. Enfin, je l'ai vue sur internet. Enfin, bref. merde. mais j'ai pas trouvé ça super bien fait quand même. Les gars sont pas très futuristes.
Mais en fait,
ils devraient être pas très futuristes.
C'est
une
campagne pour. Donc, ils ont profilé 1000 personnes, je crois.
Ouais.
Et ils font une campagne pour avoir des signatures pour développer ce genre d'application. Je sais plus pourquoi, pour avoir des fonds en gros pour continuer à développer ce genre de trucs et pour mettre en place des législations qui utiliseraient ce genre de principes pour capturer des gens.
Ils ont droit au niveau de la loi
Je suis pas sûr.
Faire ça, parce que apparemment maintenant ils vont donner les vidéos à la police. C'est dans leur but, hein.
Je crois qu'ils savent pas trop comment la police peut s'en servir ou des choses comme ça.
Après, ça doit dépendre de chaque pays, je suppose, mais bon, c'est une initiative qui est privé, qui est pas public déjà, et ça montre que en fait, censurer tout internet juste pour des pédophiles ou des nazis, finalement ça sert à rien, ça fait pas avancer le schmilblick, et que les gens sur internet savent s'organiser pour contrer ce genre de choses, quoi. Coralie?
Oui, alors moi je veux aussi parler d'un, donc c'est une info qui est sortie sur Desine aussi, d'un logiciel qui permet de masquer les fichiers 3D partagés en ligne. Donc c'est un peu, donc c'est un designer qui s'appelle Mathieu Plumer Fernandez, et c'est un logiciel qui crée un algorithme pour transformer les fichiers STL, donc pour la stéréolithographie, l'impression 3D, et ça permet, quand on les partage en ligne, en fait, de... l'objet soit invisible. Ça crée une... Alors, c'est pas évident à expliquer.
Invisible pour qui ?
T'as des paramètres de réglage pour déformer volontairement ta forme.
D'accord.
Et en gros, c'est crypté. Il dit qu'il s'est inspiré de la machine Enigma qui permettait de crypter et de décoder des messages pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, on va dire que là, c'est le même principe appliqué au partage de fichiers STL.
Okay. D'accord.
Donc en fait, ça génère des formes. Tu mets ton fichier avec ton pistolet, par exemple, parce que ça fait partie des actualités qui remontent. et ça va te le déformer complètement, ça va faire quelque chose de complètement abstrait. Et ça, les personnes à qui tu donneras ton code,
d'accord,
le code qui a été généré par le logiciel pour déformer ton pistolet, pourront accéder au fichier véritable, en fait.
D'accord. Donc c'est pour contrer la censure sur les fichiers 3D, qui n'existent pas trop actuellement, mais qui, on va y venir, quoi.
Il disait que c'était aussi pour contrer les patentes trolls, les compagnies qui déposent des brevets juste pour faire après de la concession de brevets. Donc, ou alors, ouais, c'était ça. Voilà.
Ok. Toi, t'as eu le temps de réviser, là ?
Non, c'est des vieilles actus que j'avais préparées il y a 4 semaines, donc c'est un peu trop vieux maintenant.
Donc tu te mouilles pas, quoi ?
Non, en plus, on va parler du téléphone de Merkel dans la prochaine partie.
Ouais, de toute façon, on n'en parlera pas trop, parce que tout le monde s'en fout. Alors, on fait quoi, une coupure ou...
On fait une coupure avant les dossiers.
Ok, allez, c'est parti. C'était quoi, une reprise de Night Call de Kavinsky là ? Alex, c'est toi qui as géré le MP3 là ?
Aucune idée.
Non, c'est ça, c'est tout à fait ça.
Merci. Donc ouais, juste retour sur comment ça s'appelle, on parlait de la mort là.
Ouais.
Juste pour dire oui qu'il y a des services qui te permettent en fait de créer un mail, d'enregistrer tous tes logins et mots de passe des différents services, et cycliquement tout, je sais pas, tous les mois tu reçois un mail pour dire non, je suis pas mort. Donc cliquez sur un lien, et si tu ne cliques pas sur le lien, en fait toutes tes infos vont être envoyées à des destinataires particuliers, quoi. Et bon, et pendant la coupure, on disait avec Coralie que ben il y avait un gros business aussi sur tout ce qui était design des pierres tombales. C'est ça que tu disais?
Ouais, design autour de la mort. Et puis aujourd'hui, avec le numérique, bah, c'est ce qu'on disait, il y a des nouvelles questions qui se posent par rapport à la mort. Il y a des cimetières virtuels maintenant en ligne. Donc pour visiter un défunt.
Il y a pas mal de sites aussi qui recensent les morts de Facebook, par exemple.
Ah, mais il y a aussi, j'ai vu un site il y a deux jours qui en temps réel montre les naissances et les morts dans le monde. Ouais.
Ah ouais, et on voit qu'il y en a plus au tiers-monde qu'en Europe, ou aux États-Unis ou en Australie, quoi.
On voit aussi qu'il y a beaucoup plus de naissances que de morts.
Ouais, c'est exponentiel, là.
Ouais, ouais, mais là, quand tu le vois en temps réel, c'est assez...
On est passé à 7 milliards récemment.
7 milliards, ouais.
On rappelle le pad.
Donc ouais, rappelle le pad. Il y a des questions déjà?
Pas de questions, il y a 3 personnes, donc ça c'est calme.
D'accord, personne nous écoute.
C'est canalsud.tetalab.org où vous pouvez retrouver le générique, les actualités, si vous avez loupé l'image du mec qui s'est implanté une espèce de téléphone portable sous la peau. Et voilà, le son et les liens vers les dossiers.
Tu veux commencer par les smartphones ou je commence par la petite actu?
Oh, comme tu préfères.
Bon, allez, vas-y.
Bon, alors moi, je vais parler de smartphones. Parce que donc il y a un projet en ce moment qui fait un peu le buzz sur Internet. C'est le projet PhoneBlocks de Dave Atkins. Et donc c'est un étudiant en design qui a conçu, c'est en 3D, c'est une image 3D, un téléphone modulaire. Donc le principe, c'est que ce sont des modules qui viennent se planter sur une base et qui permettent de modifier, par exemple, les besoins de la batterie ou les besoins de la caméra. Et l'idée derrière ça, en fait, c'est que c'est lié toujours à cette problématique d'obsolescence programmée et de déchets électroniques. L'idée, c'est que plutôt que de changer l'ensemble du téléphone, on changerait juste la partie défaillante, par exemple, s'il y a une défaillance... Voilà. Donc il a
si
fait.
Si on veut un processeur plus rapide, au lieu d'en changer, d'acheter le Samsung Galaxy S10.
Voilà, au lieu de changer l'écran. Le téléphone, on change juste une partie. Donc ça, c'est l'idée.
De base, ouais.
Le concept, voilà. Et alors, ce qui est assez fou, c'est que. Donc il y a eu 7 millions de vues sur sa vidéo sur Internet. Et du coup, Motorola a sorti du chapeau le même projet qu'ils font depuis un an, qui s'appelle Projet Ara. Et qui est, donc leur ambition, c'est de faire la même chose qu'Android avec le software, pour le hardware, donc pour faire un téléphone portable modulaire.
D'avoir quelque chose de standardisé. Et c'est une espèce d'exosquelette, en fait, plus que de... Enfin, on a une base sur laquelle on plug les trucs.
Tu plugues des petites parties. Alors, donc c'est
le PhoneBlocks, c'était plus du Lego, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est la différence. C'est le même principe, quand même, de module. Après, PhoneBlocks, c'est un projet qui est plus conceptuel. C'est pas réfléchi dans la... Ouais.
La faisabilité, quoi.
Il y a réfléchi, je pense. Mais disons que Motorola, eux, ils sont vraiment en train de faire des prototypes fonctionnels. Donc, je pense qu'ils ont déjà vu ce qui fonctionnait ou pas techniquement. Alors, il y a eu pas mal de détracteurs aussi de l'idée PhoneBlocks avant que Motorola sorte le lapin du chapeau, qui disent que le problème de l'électronique modulaire, en l'occurrence pour un téléphone, un smartphone, c'est que ça va générer un téléphone qui va être plus gros, qui va être plus cher. Il faut que chaque composant soit emballé individuellement dans un petit module en plastique. Les connexions, ça fragilise un petit peu. Donc si on enlève assez souvent, ça peut fragiliser l'ensemble, quoi.
Il y avait une super discussion sur... il y avait un article sur Hacker News aussi la semaine dernière par rapport à cette modularité. Et comment on va devoir choisir, ou comment on choisit déjà la modularité ou pas de nos composants électroniques qu'on a chez nous. Genre, ça reparlait des ordinateurs qu'on avait depuis les années 90,
ouais.
En fait, qui sont assez modulaires, avec des cartes PCI, des cartes ISA à l'époque, des disques durs qu'on branche comme ça à la main et tout ça. Et comment finalement, avec Apple par exemple, qui rend ça non modulaire,
ouais.
Et qui fait un truc tout intégré, et maintenant comment sont les téléphones portables, c'est des trucs tout intégrés, on s'amuse pas à changer une batterie.
Les ordinateurs portables aussi, ouais.
Les ordinateurs portables, bon, les ordinateurs portables, il y en a encore qui restent un peu modulaires, où tu peux changer ton disque dur par exemple pour rajouter de la RAM, mais c'est un choix qui est fait, donc la non modularité apporte un truc super rapide, super intégré. Mais le problème, c'est que tu peux pas remplacer les pièces. Et la modularité permet de customiser un peu ton appareil électronique, mais ne permet pas une intégration totale de toutes
ça.
Les pièces. Donc c'est un... Voilà, à quel moment ça s'améliore, à quel moment que tu choisis tel ou tel truc.
On a tendance à oublier que les ordinateurs étaient modulaires, parce que c'est vrai que c'est ils le sont toujours, mais c'est de moins... Enfin, dans le cas
on n'achète plus des tours, par exemple. Enfin, on n'achète plus. C'est les PC de bureau, ça peut rester
des
tours.
Dans les sociétés, tu l'utilises toujours, mais bon, voilà, on est plus dans le modèle tablette, quoi.
Ouais, carrément.
Mais bon, après, l'histoire de la taille, vu la taille de certains portables qui sont presque des tablettes, je vois pas où est le problème.
Bah, la modularité.
Après,
ça dépend. Si tu cherches les mêmes performances que ces portables qui sont déjà énormes, les smartphones qui sont déjà énormes, et que tu veux le faire via ces modules au dos que tu peux changer, etc., ça a forcément augmenté la taille. Quand tu regardes la carte électronique, les composants, ils sont bien organisés pour que ça prenne le moins de place possible.
Oui, pas avoir les mêmes performances qu'un truc tout intégré, quoi.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'après, si t'as l'argent pour t'acheter la petite puce graphique qui va bien et ouais, qui coûte forcément plus cher,
pour un prix équivalent, t'as pas la même performance sur un système modulaire que sur un système tout intégré.
Ouais, je sais pas.
Après, je sais pas, au niveau de la connectique, en fait, les portables actuels, en fait, c'est déjà tout... on peut pas les changer sur ceux actuels.
Ouais.
Donc à partir du moment où on imagine un portable où on pourrait changer comme ça des éléments, je pense que la connectique elle prendrait un peu plus de place déjà.
Et puis il faudrait des normes, faudrait un truc. Pour l'instant il n'y a pas vraiment de normes, quoi. Les normes qui existent, ça sort du PC, donc il y a l'USB, il y a le PCI Express pour certaines connectiques dans les ordinateurs portables, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de trucs.
Après, c'est surtout, est-ce que d'autres constructeurs que Motorola vont suivre le truc ? Parce que c'est comme tous les formats que Sony a développé, comme le, je sais plus comment ça, le mini disque ou les disques UMD.
C'est que Motorola qui s'y met.
Ça va pas aller bien loin. Si des petits constructeurs peuvent pas proposer des petits modules, t'auras pas de réduction de coût.
En fait, ils veulent créer un écosystème de développeurs et du coup faire en fait. Donc, ce que j'ai oublié de dire, qui est aussi notable, c'est que le projet il va être en open hardware et qui va être libéré sur une plateforme. Donc, c'était une information importante. Et du coup, ce qu'ils veulent en fait, c'est que justement le développement se fasse par des personnes extérieures, quoi.
D'accord.
Après, c'est comme Android et Google.
Ouais.
Google qui avait lancé le projet Android, enfin qui avait bien participé au début et qui commence à fermer la plateforme maintenant qu'elle est.
Ouais, ça c'est
un succès. Ouais. En tout cas, c'est quand même une bonne initiative. Si ça peut faire moins de déchets, on n'est pas tous. On veut pas tous un portable qui soit super puissant. Donc ça peut faire l'affaire, quoi.
Ouais, mais à voir, quoi.
Et ils n'ont pas dit sur quel système ça allait tourner. Sur Android, je suppose.
Je pense, ouais.
Ouais.
Ouais, ouais. Y a aussi donc d'autres projets, parce que les problématiques des smartphones, il y a d'autres personnes qui travaillent dessus. Il y a un projet néerlandais qui va être vendu en décembre. Le Fairphone, c'est un téléphone équitable. Donc en fait, eux, leur volonté, c'est de travailler sur toute la boucle, en fait, tout ce qui ne va pas aujourd'hui dans le monde de l'électronique.
Sur les matériaux utilisés dans la construction des puces.
La source des matières premières, vu qu'il y a des problèmes de conflit pour les matières premières au Congo.
Il y a eu un reportage récemment, je ne sais plus comment il s'appelait, un mec qui était parti au Congo justement qui était allé voir Nokia pour avoir une réaction de la part de Nokia, et Nokia qui ne pouvait rien dire et qui ne voulait pas mettre en place, qui avait du mal à mettre en place en tout cas une traçabilité des matériaux qu'ils utilisaient dans leur téléphone.
Parce que faut rappeler que les matières premières, en fait, qui permettent la fabrication des composants, des micro-composants, viennent tous de pays en développement et en guerre.
Mmh. Ouais.
Du coup, pour ces matériaux, à l'époque, c'était le diamant. Maintenant, c'est ces matières-là.
Comment ça s'appelle ?
Les terres rares.
Terres rares.
Mmh. Ouais.
Et il y en a beaucoup en Chine, je crois.
Et là,
il y en a beaucoup en Chine et dans les pays africains en guerre. En général, c'est contrôlé par des.
Là, il mettait en évidence dans le documentaire que, en gros, toute la guerre au Congo était liée aux enjeux de ces minerais qui permettent la fabrication de l'électronique. Mmh. Il y avait même eu un rapport entre la sortie de la PlayStation 2 et un conflit au Congo, en fait.
Ok. Alors la traçabilité des sorties de nouvelles consoles, nouvelle génération.
Et la Play 4 et la Xbox 3 qui vont bientôt sortir d'ailleurs. Mm. J'ai entendu ça. Et c'est aussi payer mieux décemment les ouvriers qui vont assembler le téléphone.
Donc aussi travailler sur les conditions de travail, donc à la fois les conditions de travail pour l'extraction des matières premières, mais les conditions de travail aussi des ouvriers en Chine. Donc ça, il y a eu aussi des reportages là-dessus. Hein. Mmh. Je me rappelle plus du nom de l'usine.
Foxconn.
Ouais, voilà, merci. Foxconn. Donc,
ils ont mis des filets maintenant, il n'y a plus de problème.
Ils ont mis des filets anti-suicide, ouais.
Mais donc ça va faire un portable qui va coûter une brique, quoi.
Non. Alors non. En fait, il est en pré-vente en ce moment sur Internet. Et il est à 325 euros en pré-vente.
Mais qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que c'est juste on peut appeler ou c'est réellement un smartphone
Non,
avec Android ?
C'est un smartphone avec OS Android, 8 mégapixels et une caméra de 1,3 mégapixels.
Ouais, c'est pas top quand même.
Pardon, moi j'ai pas de smartphone, donc ça me semble. Ouais, d'accord.
Ah non, je préfère acheter Apple là.
Donc ils sont en plastique.
Non, mais c'est bien. Mais moi j'avais aussi vu un projet de téléphone. Et en fait, c'était un téléphone, ça sert à quoi ? Ça sert à téléphoner.
Ouais.
Donc c'était juste un téléphone qui avait les numéros. Il y avait juste un affichage digital pour savoir qui nous appelle, mais l'affichage digital comme la montre Casio, quoi. Mm. Et c'était la plus simple expression du portable. Non, c'est pire que le tien.
Ouais, il l'a encore perfectionné.
Avec une découpe laser, tout ça.
Non, et t'avais pour ton carnet d'adresse, à l'arrière du portable, t'avais un tout petit carnet en papier avec
petit
stylo.
Vu, ouais.
Mais le portable coûtait super cher, quoi, pour ce que c'était, quoi. Non, ça coûtait très cher. Enfin, à l'époque, je sais pas, mais moi, ça m'avait paru cher par rapport à tout ce qu'on peut acheter.
Il y a quelques années, ouais, ils avaient.
En boutique avec un abonnement, quoi.
Où tu avais les numéros, en gros, un peu comme les téléphones pour les vieux, là.
Exactement pareil. Ouais.
Après, il y a aussi les téléphones portables jetables.
Mm-hmm.
Ça existe, ça
ouais.
Mais ils sont tous jetables.
Oui, justement. Après, il faut voir la durée. Mais
c'est pourquoi ? Pour la mafia ou les trucs comme
ouais,
ça ?
Ouais, il y en a qui utilisent pour ça, par exemple, pour les dealers, par exemple, ils ont des portables qui ne durent pas plus d'un mois, je crois.
Ah ouais ?
En fait, c'est même plus la puce qui est jetable, c'est le portable en entier, quoi.
Mm. D'accord.
Et dans la série.
Et les téléphones bi, quoi.
Ouais, voilà. Mmh. Et dans une série The Wire, justement, les mecs, à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils sont sur écoute. Et du coup, ils passent à ces portables-là jetables au bout d'un mois. Ils ont l'obligation de tous les mois jeter leur portable. Et ça recrée.
Ouais, c'est en marche sur la tête, quand même.
Ouais.
Les Chinois de la CIA aussi s'en servent.
Ouais, c'est vrai, les Chinois de la CIA. Tu allais dire ?
Là, j'avais terminé sur le Fairphone. Il y a un autre encore aussi un peu dans la même idée, Fairtrade électronique. J'en avais parlé il y a très longtemps de Fairtrade électronique, ceux qui voulaient créer une LED entièrement équitable.
C'était pas des trucs en papier, non ?
Non, ça c'était autre chose.
C'est autre chose, c'est pas le grille-pain non plus.
Non plus. Hein. Et là, eux, ils proposent. Enfin, ils proposent. C'est en cours de développement, je crois que là, ils en sont au stade du prototypage. Un smartphone apaisé. Donc, l'idée, c'est que. Alors, lui, par contre, il est plutôt sur l'idée de réduire. Réduire la performance du smartphone pour pouvoir faire quelque chose de plus, on va dire, de moins coûteux environnementalement. Moque-toi.
Non, je me moque de Alex qui prend l'apéro, là, on entend un coup.
et voilà.
Ok. Ok, ok. Bon, on clôt le dossier smartphone.
Ouais.
Bon, moi, je vais parler d'une toute petite actualité en dossier. J'aurais dû le mettre en actu parce que tout le monde s'en fout, en fait. Rappelez-vous, c'était quand cet été, Edward Snowden.
Le 6 juin 2013.
Le 6 juin 2013. Et Edward Snowden se réfugie à Hong Kong. Parce qu'il a mis à disposition de tout le monde des documents de la NSA. La NSA, c'est l'intelligence, service d'intelligence américain, comme nous, on a la DGSE. Et donc, il démontre qu'en fait, la NSA écoute toute la planète, écoute tous les...
Ce qui n'est pas nouveau, c'est long.
Oui, on s'en doutait, s'en doutait. Mais c'est surtout les Américains qui se sont levés avec la gueule de bois, parce que tous les appels téléphoniques... de leur pays étaient écoutés et toutes les communications, les Facebook, les Google, enfin
les
presque
gros
tout.
Services internet américains.
Les gros services et soi-disant Google, Yahoo et Facebook n'étaient pas censés écouter leur population et on s'est rendu compte que en fait ils avaient des backdoor.
Et Google et Facebook et tout ça se sont fait pirater par la NSA. C'est ce qui est ressorti
voilà,
cette semaine.
Voilà, ça c'est après. C'est...
Ah, okay.
Et donc on s'est dit, en France ça a été, oh là là, c'est pas bien et tout. Et puis récemment est arrivé qu'en fait le gouvernement français et les gouvernements européens, dont Angela Merkel, avaient leur téléphone portable sur écoute par les Américains. Et là on a entendu, ça a été un peu... Oh là là, c'est pas très bien et tout. Et Hollande a dit, ah non, mais il faut réglementer tout ça et on va faire un accord. Et l'accord, il est passé en un ou deux jours avec Barack Obama, il est passé comme une lettre à la poste. Et c'est là que Edward Snowden a donné d'autres documents et que, comment il s'appelle ce journal, enfin un journal allemand...
Spiegel qui gère le dossier en Allemagne, non?
Non. Bon, la presse allemande, j'ai marqué, relayée par TV5. En fait, on avait des accords avec la NSA, la France, mais depuis de longues années. Donc l'accord qui sont passés avec Barack Obama, c'était juste pour apaiser tout le monde. Mais bon, de toute façon... C'est pas grave parce que tout le monde s'en fout, on l'entend pas dans la presse, il n'y a pas de problème, tout va très bien. Et ça a commencé par une gaffe de Fleur Pellerin qui est ministre de la Culture. Mmh. Oui, c'est ça, hein. Ministre de la Culture, qui a dit que Alcatel était la pièce maîtresse de la cybersurveillance. Et donc là, il y en a qui ont commencé à tiquer, pourquoi elle dit Alcatel. Ça et tout, Alcatel. Et Alcatel, en fait, pose des gros câbles sous-marins. Pour internet quoi.
Pas de clé.
Pour
continue.
Attends, vas-y, tu vois.
Non, Fleur Pellerin n'est pas ministre de la Culture, elle est ministre du développement de l'économie numérique.
Voilà, mais c'est sous le ministre de la Culture. Non,
sûrement, ouais, ministre délégué.
Ouais, j'avais à moitié tort. Et ensuite, il y a Nicole Bric, ministre de l'économie extérieure, là je me trompe pas, qui sur BFM TV ou TV5, je sais plus. Sur des questions, ils lui ont posé des questions, mais est-ce que nous, on écoute sur toutes ces questions-là? Elle a dit, on n'est pas dépourvu en matière d'intelligence économique. Et là, ils lui ont demandé, mais vous avez des infos? Ah non, j'ai pas d'infos. Bon, elle avait fait un peu une gaffe d'en parler. Et donc, c'est là que on a appris par la presse allemande qu'il y avait cet accord qui s'appelle Lustre. Mais je redis encore une fois, tout le monde s'en fout. Vous tapez Lustre dans Google Actualité ou dans Google, il y a un pauvre article qui se balade et les articles de presse sur Internet, ça se compte sur les doigts de la main. Il y a peut-être un ou deux articles du Monde, mais surtout ce qui arrive en première position, c'est qu'ils ont changé les lustres à l'Élysée.
Ah, c'est important.
Voilà, c'est quand même, faut le savoir, hein. Voilà, donc en fait, en gros,
c'est marrant, ça pourrait être une espèce d'attaque, tu vois, du search engine optimization. C'est un espèce de mot pour dire les gens qui optimisent les résultats des recherches, ouais, pour que ça ressorte en premier.
Peut-être.
Et du coup, les services de communication de l'Elysée seraient dit, on va essayer d'optimiser ça pour que s'il y a des gens...
Ouais, je ne sais pas si c'est le Louvre, l'Elysée ou Versailles. Par contre, je ne veux pas dire de bêtises.
Ok.
Attends, j'ai une question, mais les accords, en gros, c'est ok, c'est cool, vous pouvez nous écouter.
Non, mais attends, on va y venir. Et en fait, nous, j'avais parlé plusieurs fois de Amesis et de Bull, qui avaient mis un gros logiciel d'écoute en Libye, qui s'appelait Eagle. Et quand Libye s'est cassé la gueule, les Libyens ont découvert ça. Et ça, on en a beaucoup parlé, parce que ça a permis, enfin bref, il y a eu des tortures d'opposants.
Kadhafi était
écouté, en fait. Sa population, quoi. Sa population était sous écoute.
C'est lié aux accords aussi entre Kadhafi et Sarkozy.
Voilà, il y avait, je sais plus, celui qui avait les frégates de Taïwan, là, l'histoire. Il y avait un mec.
Takedine.
Voilà, donc ça, c'était pas joli, joli. Mais on a la même chose au Maroc, en fait. Il y a Boul Amesis qui est au Maroc et qui a ce logiciel au Maroc. Donc s'il y a des Marocains qui écoutent Canal Sud, on ne sait jamais. Sachez que votre gouvernement vous écoute et surveille ce que vous faites. Et donc, il y a une censure réelle qui est au Maroc. Donc, d'ailleurs, ils ont censuré un site qui s'appelle La Com, qui était un site de l'opposition et assez libre par rapport aux infos qui montraient sur leur site. Et d'ailleurs, il y a un site français qui s'appelle reflet.info qui eux ont sorti toute cette histoire. Donc il faut vraiment aller voir reflet.info. Ils sont censurés au Maroc aussi, parce que ils ont parlé de toutes ces censures.
Il y a une histoire avec un bisou aussi qui était passé sur Facebook.
Il y a deux jeunes qui ont posté une photo, un jeune couple en train de s'embrasser devant une école, tout ça, et ils ont été jugés. Alors je sais pas si le jugement est passé encore, je connais pas trop.
Je connais pas l'affaire, mais ça permet de savoir aussi que c'est surveillé. Genre il y a quelqu'un qui a surveillé ce genre de site et qu'il y a des jeunes qui s'embrassaient et qui se sont dit oh là.
République musulmane ou pas, on met pas des ados en prison parce qu'ils se sont embrassés devant une école.
Il y a eu des gens qui s'embrassaient après dans tout le Maroc.
Ouais, ils ont posté plein de photos Facebook. Donc, s'il y a des Marocains qui écoutent, il faut vous bouger un peu, sinon ça va déraper. Mais bon, ça a déjà dérapé. Donc, nous, on a des centres d'écoute en Libye, on a des centres d'écoute au Maroc, ça c'est sûr.
On a un centre d'écoute en France suite aux, tu sais, les fibres optiques là, de tout la Méditerranée.
Ouais, alors voilà. Donc en fait, les Américains, ils ont un avantage stratégique, c'est que tous les tuyaux d'Internet, ils passent presque chez eux. Donc ils peuvent écouter la planète entière. Donc ils peuvent écouter les Français qui sont sur Facebook, tout ça. Mais nous, on a un gros avantage stratégique, la France, c'est que 90% des communications qui viennent d'Afrique, elles passent par la France. Donc, pour les terroristes, tout le continent africain, c'est pas mal de savoir ce qu'ils font. Donc, en fait, on a fait une coopération avec les Américains. On leur donne tout ce qui passe par les tuyaux africains. Et eux nous donnent tout ce qui passe par les tuyaux français qui vont en direction des États-Unis. Donc, on leur donne les infos, ils nous donnent toutes les infos sur nous. Donc, il y a eu pendant un mois, c'était en décembre 2012, ils ont donné tout ce qui est passé pendant un mois sur ces tuyaux. Donc c'est hyper grave, quoi. C'est limite droit de l'homme ou droit de les droits européens sont carrément bafoués. Comment on peut faire confiance à un gouvernement s'il nous met carrément sur écoute et il écoute la population? Parce qu'il faut pas croire que c'est juste pour des terroristes ou tout ça. Chaque censure qu'il y a eu n'importe quand dans l'histoire ou même récemment, on a vu qu'il y a eu des opposants politiques ou ça, au niveau industriel, il y a eu des choses. Et puis bon, c'est bien joli le Parti Socialiste machin tout ça, mais ils font pire que Sarkozy, parce que cet accord avait été fait par Sarkozy. Mais Hollande, lui, il a pas dit non mais c'est quoi ce délire, on va arrêter ça, quoi. Voilà.
Comment,
donc Mais tout le monde s'en fout en plus. C'est l'actualité. Tu regardes que TF1, n'importe quel truc. Peut-être qu'il y a eu 2 secondes, mais je ne l'ai pas vu passer. C'est ça, l'écotaxe et les trucs, ça ou machin, ça on en parle. Mais ça, je trouve que c'est très grave quoi.
Vous en avez déjà parlé, j'imagine, hein, pendant l'émission, mais comment on se protège? Est-ce qu'il y a moyen de se protéger contre ces écoutes?
Et ben là, en fait, il n'y a pas trop de moyens, parce que, par exemple, si on utilise les services de Google, tu vas avoir une connexion sécurisée jusqu'au service de Google. Mais en fait, la NSA, ils ont piraté chez Google. Et en fait, à l'intérieur de l'infrastructure de Google, tous les messages sont en clair. Parce que bon, ils n'ont pas de problème de sécurité, en théorie, à l'intérieur de leur service. Donc eux, au lieu d'essayer d'être à la sortie de Google, ben, ils ont directement piraté Google, quoi. Mmh. Et donc, il y avait une image qui est sortie où, de la NSA, où en fait, il y avait une espèce de post-it avec un gros smiley. Ouais, ben, on est en train de pirater Google. Et Google, eux, ils ont
mais c'est
actuellement...
Pas, c'est pas forcément la NSA, c'est aussi un partenariat avec le GHC. GHQ de ces services secrets anglais.
Oui.
En gros, la NSA a pas le droit de pirater les services américains, donc ils ont des partenariats avec, ça s'appelle UCASA, ça date de l'époque de Echelon, c'est quoi, c'est les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Mm. Et du coup, ils peuvent donner à des partenaires le choix de pirater tel ou tel truc. Et là, par exemple, par rapport à Google, comme c'est un service américain, ils ont demandé à l'Angleterre de s'en charger.
Ah oui, parce qu'il y a, quand même des lois en Europe, dans tous les pays. Et en fait, les Américains, s'ils écoutent leur pays de l'étranger, ben, ça pose pas de problème de loi. Et nous, c'est pareil. Si on a des services d'écoute qui sont au Maroc ou en Libye ou je ne sais où, ben, ils peuvent impunément écouter la population française, alors que ça pose... ouais, ça leur pose pas de problème, je suppose. Suppose de nous écouter en France, mais bon. Enfin bref, voilà, c'est de pire en pire quoi.
Je crois que les gens ils sont résignés en fait, parce que à l'époque déjà Mitterrand il y a eu l'affaire des écoutes téléphoniques, et depuis en fait voilà les gens je crois ils s'habituent.
Mais parce
ils
que je pense
ils s'en foutent.
Il y a rien de tangible. Si demain il y a quelqu'un à la poste qui ouvre notre courrier et qui a un tampon comme quoi ça a été regardé, là je pense les gens ils vont crier au scandale. Mais là c'est pas palpable, donc
c'est virtuel. Ouais.
Je sais pas comment ça se passe en Allemagne, parce que pour l'instant il y a un peu que les Allemands qui en prennent cher et qui en parlent vraiment dans leurs actualités, parce que Spiegel c'est un peu comme Le Monde là-bas,
ouais.
Et ils en parlent vraiment beaucoup, ça commence à être une affaire d'État avec là depuis hier, ils ont convoqué l'ambassadeur britannique pour leur demander de démanteler l'antenne qu'ils avaient sur leur ambassade qui est à quelques centaines de mètres du Parlement allemand, et donc eux, les Allemands, ils ont un gros problème par rapport à ça, c'est leur histoire, c'est la Stasi. Et donc sous la Stasi, c'était un truc pas très vieux, donc il y a encore toute une génération qui a vécu là-dessous, il y a des enfants de parents qui ont été un peu persécutés par la Stasi, et donc ils ont un peu ce réflexe de dire on n'a pas vraiment envie de retourner là-dedans, et c'est ce qui est en train de se monter, un peu la Stasi version américaine, il n'y a pas trop de contre-culture au niveau britannique ou au niveau anglophone sur comment combattre ce genre de système.
On a même presque l'impression qu'Obama il est témoin marionnette dans tout ça, quoi. On sent pas la volonté forte d'Obama de dire c'est quoi ce bordel.
Ouais, ou de Hollande, ou même les Anglais. Les Anglais ils combattent vachement le truc avec Cameron qui poursuit le journalisme comme un acte terroriste, où ils ont arrêté le compagnon du journaliste phare sur cette affaire. Ils l'ont arrêté en transit à l'aéroport de Londres, donc il partait de Berlin parce qu'il avait rencontré la deuxième journaliste, Laura Poitras, qui travaille sur ce document, et lui il partait au Brésil, donc il passe par Londres pour faire le transit, et à Londres il se fait arrêter par la police britannique sous une loi antiterroriste.
Ils ont chopé son ordi,
ils ont essayé de choper ses mots de passe, et finalement le rapport est sorti cette semaine, ils ont bien reconnu que les idées qu'il avait par rapport à la diffusion de ce genre de documents pouvaient rentrer sous les lois antiterroristes. Mmh. Donc voilà, il n'y a que les Anglais qui défendent bien fort ça. Les Américains qui veulent continuer à prosécuter Snowden. Voilà, les Allemands qui oui. commencent à...
Et d'ailleurs, les Allemands voulaient accueillir Snowden voilà, sous couvert qu'il allait faire une conférence. Voilà, non, qu'il était témoin,
ouais. Il y a la semaine dernière un politique du Parti Vert allemand qui allait voir Snowden en Russie, et Snowden lui a remis une lettre pour Angela Merkel pour lui dire qu'il était prêt à témoigner sur l'utilisation... de ces systèmes d'espionnage pour une enquête en Allemagne.
Moi, quand on parle de cette affaire, je dis juste que bon, bah, c'est pas nouveau, quoi. On le sait tous au fond de nous qu'on est écouté, que Big Brother is watching you, quoi. On le sait.
Ouais, mais c'est pas nouveau qu'il faut laisser faire ça, quoi, parce que ça va être de pire en pire.
De pire en pire, et puis on peut choisir autre chose.
Oui.
Il y a moyen de le faire autrement et pas forcément avoir tous un compte Facebook ou un compte Google. Et,
ouais, ouais. Si tu utilises un autre moteur de recherche, justement.
Tu peux utiliser déjà DuckDuckGo, qui est quand même assez...
qui met une barrière entre toi et Google. Ouais. Après, il y a quand même...
Mais surtout, ce que je trouve marrant, c'est que si nous, on commence à écouter tous ceux qui nous dirigent, je pense qu'ils ne seront pas du tout contents, alors que ça ne leur pose pas de problème de nous écouter, quoi.
Et ce qui était assez fabuleux avec les réactions d'Angela Merkel, c'est que depuis quelques semaines, on savait que toute la population allemande était écoutée. Bon, voilà, on n'en parlait pas trop. Et puis Angela Merkel est écoutée, et du coup, là, ça fait un gros scandale. Hein. Et donc, une des phrases que j'avais vues sur Internet, c'était que le mec était un peu indigné que les politiciens étaient scandalisés quand on les écoutait eux, mais quand on écoutait leur population qu'ils étaient censés représenter, bon, finalement, il n'y avait pas trop de...
Ouais, comment tu peux avoir confiance en gouvernement s'il fait ce genre de choses, quoi. C'est un peu le problème. Puis bon, ils ont peut-être trouvé des sextos d'Angela Merkel ou des photos olé-olé d'Angela Merkel. C'est marrant, ça. Enfin, bref. Combien il nous reste de temps? C'est presque la fin. On va passer juste... il n'y a plus de questions, il n'y a pas de questions.
Pas de questions.
Tout le monde s'en fout, alors, de toute manière. On va passer à l'agenda.
Pas de musique?
Pas de musique, non, de toute façon.
Moi, je me suis souvenu du nom du documentaire qu'on cherchait tout à l'heure. Donc, c'est Blood in My Mobile.
Ok,
voilà, pour d'accord. Ceux qui...
Donc, si vous allez sur canalsud.tetala.org, vous trouverez le lien en torrent pour le télécharger.
D'accord. Donc, au niveau agenda, il y a le Capitole du Libre. C'est quand ?
C'est juste après la diffusion du film Terms and Conditions May Apply. Le 22 novembre à l'Utopia,
d'accord.
Donc le 23 et le 24 à l'Ensette.
À
l'Ensette. Le Capitole du Livre, l'Ensette, c'est à côté de la place Saint-Aubin. C'est des conférences et des expos publics
sur le libre,
donc toute la journée du samedi et du dimanche, et des ateliers et des conférences.
D'accord.
Je crois que les conférences, c'est que le samedi.
Et il y aura le Theta Lab là-bas ?
Il y aura le Theta Lab avec un stand sur les impressions 3D.
D'accord.
Avec quelques imprimantes 3D et tout ça.
Ok, cool. On a d'autres trucs dans l'agenda ?
On va parler du CCC, mais peut-être le mois prochain. Donc le CCC, c'est le Chaos Communication Congress qui a lieu tous les ans, donc maintenant à Hambourg, donc du 27 au 30 décembre. Voilà, des conférences, ça a sûrement parlé de Snowden, c'est des trucs un peu international et tout ça, donc c'est assez intéressant. Donc on a parlé du Capitole du Livre et le Drink and Draw, c'est vendredi à la Mécanique des Fluides, un bar sur la place de la piscine Léon Lagrange, donc pour dessiner. Normalement il y a une application un peu Theta Lab en préparation sur comment dessiner avec son téléphone portable.
D'accord. Après on rappelle, vu qu'on a les dates du prochain THSF, on peut déjà les annoncer.
Oui.
29, 30 mai, 28, 29.
Oui, dernier week-end de mai.
Dernier week-end de mai, 5e édition du THSF. Déjà. Enfin, on est qu'en novembre. Mais... et ensuite, le Theta Lab qui se réunit quand même tous les mercredis soirs.
Voilà, dès ce soir.
International. Tous les mercredis soirs, donc 12 rue Ferdinand Lassalle à Mixarmiris. Le mercredi, c'est journée porte ouverte, soirée porte ouverte, à partir de 21h.
Ouais, pour le Theta Lab.
Pour le Theta Lab.
Il y aura une soirée porte ouverte le mois prochain à Mixarmiris, le 11 novembre.
Voilà, où on va essayer de présenter un peu...
Décembre.
On va essayer de présenter un peu tout ce qu'on a fait depuis que le Theta Lab existe, quoi. Mais j'ai dit bien, on va essayer, quoi.
Depuis 89.
depuis 89, ouais, c'est ça. Ok, c'était cool de revenir un peu ici faire notre émission. Donc déjà aussi, merci à Canal Sud.
Avec
et
plaisir.
Et on se retrouve dans un mois, on va dire. On ne sait pas la date, mais vous avez qu'à écouter en permanence et vous nous trouverez. Ok, bonne journée, au revoir.
Ciao.
Ciao.
Voilà, donc on va quand même mettre le dernier morceau qu'avait choisi donc le Tata Lab pour peut-être clore cette édition du Tata Lab que vous retrouvez à peu près dans un mois.
Up in the sky, it's a bird.
It's a plane.
It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men.
No like a better move. The Alexa come on with the musical smoothie. Super bad man with the girl them call we. Wicked in a bed we make you bubble like Pepsi.
Bubble like Pepsi.
Sexy body girl, them off it wine up them booty. Hattie hattie them, them off it taste my sense. Ability, limity, glamity boy, anything goes.
Tell you me say anything goes.
I'm a big DJ, slipping on the way. But ain't way to stay, see every single day. Every single day, when you wear it, when you slide it, never ever ever seen the get. When you wear it, when you slide it, never ever ever seen the get.
I'm a Superman.
Fresh out the phone booth, I fall from the sky, but when I do, I land on my own too. Follow you guys, nah, dude, I fly to my own tune. Proper disguise up in the sky without the blue costume. I got moves, usually charge a fee, but my services are free to the populace. The mayor gave me the key to Metropolis, and so I mess through your Lex Luthor's plex in a touch deluxe, Duluth's next to us. West up, your losers could put an X to them. We musics, Professor X students, I think I'm Clark Kent. Bruce Banner, fresh Buddha, move with a loose cannon. Next to your monsters, but oh well. We're keeping it modest as a sign that it's a summer in hell. And let me be honest, I am flyer than the son of Jarrell. Looking for my lowest lane, got the coldest game for real.
I'm Superman.
It's the big spliff napper, the sticky tie smoker, the panda mic center. Spitting wicked lyrics every hour, hit songs every day, we no play, we no linger. Who's that? It's the slackness provider, the wackness eliminator, we are the good vice pusher. Who's that? Spitting lyrics every hour, hit songs every day. Oh, let me say, skank it harder, kicking it faster, all of it nice, taking them a gunshot, them all of it in my whips, it proper, I'm taking a couple of pints along, the hottest style you ever heard, I got them start to melt like butter, even if you try to learn, man, you won't get any further,
yeah.
Won't get any further, oh, let me say again.